Bon, on avait déjà vu hier, dans la série des 24 choses qui empêchent la tshuva, 9 choses. On continue maintenant dans la série, donc notre 8e cours sur la tshuva, la 6, 7e cours, notre 7e cours sur la tshuva, la liste des 24 choses qui empêchent la tshuva. Je rappelle, empêche signifie pas que c'est impossible, mais ça rend difficile la tshuva pour différentes raisons. Hier, on avait vu deux groupe, le groupe, le péché est tellement grand que Dieu l'empêche de faire tchouva. Le deuxième groupe, ça ressemble, c'est que eux par eux-mêmes, par les actions qu'ils font, ils se bloquent les possibilités de faire tchouva. On passe au troisième groupe. Le troisième groupe, c'est bien que Dieu lui tend la main pour faire tchouva, bien que lui veut faire tchouva, mais la sorte de péché qu'il a fait l'empêche de faire une tshuva qui soit totale parce qu'il ne peut pas réparer. De quoi s'agit-il? Alors, il y aura ici cinq sortes de péchés. Le premier, celui qui a maudit, c'est interdit dans la Torah de maudire. Il va maudire un public. Je maudis tous les Marocains. Je maudis tous les Polonais. Je maudis tous les. D'accord? Maintenant, le jour où tu fais tshuva, il faut demander pardon à tous les Marocains. Il y a un Marocain en Australie à qui tu n'as pas demandé pardon. Vu que tu l'as maudit, la malédiction est là, un impact. Malédiction, c'est comme une bracha. Une bénédiction, ça a un impact. Une malédiction, ça a beaucoup d'impact. C'est interdit de maudire, il ne faut pas maudire. C'est shoreshra. Les kabbalistes disent que c'est un signe de racine mauvaise, celui qui maudit. D'avoir une bouche, la bouche, l'expression de notre être. Quand quelqu'un est bon, il bénit. Il voit le bien partout. Un mauvais, il maudit. Donc, il a maudit un public et il ne pourra jamais aller s'excuser envers toutes les personnes du public. On a vu lorsqu'on fait une avéra, un péché qui concerne l'homme et son prochain, le péché n'explique que si on a demandé mechila, pardon du prochain qui a été lésé. Là, c'est impossible. Donc, ça rend la tshuva très difficile. Deuxième, le receleur. T'as le voleur. Le voleur amène sa cam chez le receleur, qui lui achète ça et qui revend la marchandise. Il est complice avec le voleur. Le voleur, il sait qui l'a volé. Il a cambriolé, il a même un calepin, voilà, le 16 juillet, on a fait trois cambriolages, la rue, truc, machin, tout ça. Il sait. Le receleur, il ne sait pas. Maintenant, le jour, il fait tchouva. Ça arrive, il a fait tchouva. Le chef de la mafia a fait tchouva. Va maintenant rembourser tous les gens qui ont été volés, et tu as été le complice du voleur. Donc toi aussi, tu dois le rendre, cet argent. Je ne sais pas. C'est mort, terminé. Problème de faire tchouva. Troisième, celui qui trouve une chose perdue. Si c'est une chose perdue qui n'a pas de signe, alors ça lui appartient. S'il est perdu, pas s'il est posé. Quelqu'un va envers une pièce, un billet de 100 euros, d'accord, posé sur une table, sur une étagère. Tu vois qu'il n'y a pas de signe, tu la mets dans la poche. Perdu. Non. Par terre. Un billet par terre. Si tu le prends dans ta poche, pas de problème. Un billet par terre entouré avec un élastique. C'est un signe. Tu es obligé de mettre dans la région des petits billets. Objet trouvé, on a trouvé une somme d'argent qui s'est restituée par les signes. Veuillez vous adresser à, et tu mets ton nom. Et la personne viendra et dira, moi j'ai trouvé une somme d'argent. Combien? Il dit, c'était 1000 euros dans un portefeuille. C'est pas toi, pas. Un vient dit, 100 euros, enroulé avec un élastique. Tiens, prends-les. Mitzvah tassé de la Torah. Il y a un lave. L'autochalet talem, tu ne pourras pas, comme tu n'as pas regardé, c'est une galère. Aujourd'hui, quelqu'un est venu dans mon bureau, il a trouvé un billet, il a mis maintenant un petit billet, vous avez vu? Un petit billet, c'est marqué, celui qui a trouvé qui a perdu une somme d'argent, qui vient me voir. Alors, il y avait un billet plié, bon, je ne vais pas dire le signe, d'accord, il y avait un signe. Un billet. Un billet, je peux mettre dans la poche, je dis non, tu dois aller mettre maintenant un petit billet. Ah, il dit, quelle poisse, j'aurais préféré ne pas le trouver, ce billet. Mais quoi, quelle poisse? T'as une mitzvah tassé, maintenant, de la Torah. Et un lave. Il y a une mitzvah lota, c'est une loi négative, tu dis, ah, c'est un billet, on va dire, de 10 shekels. Ah, moi, maintenant, pour 10 shekels, je vais aller commencer maintenant à me casser la tête. Je fais comme si je n'ai pas vu. Quelqu'un d'autre fera la mitzvah à ma place. T'as un lave, interdiction. L'autre chaletam, tu ne pourras pas ignorer la chose perdue. Il faut la ramasser et aller mettre des petits billets. Et mettre les petits billets, ça, c'est la mitzvah assez de la Torah. Le Rav Shmuel Auerbach, qui est un des plus grands rabbins du monde, parmi les cinq plus grands noms, m'a raconté un jour, on le voit dans la rue, il met des billets comme ça sur tous les pylônes de toute l'avenue. Hein, comme ça, 20 pylônes, chaque fois, il va. Et on voit, Achat Aveda, il fait justement restitution d'objets trouvés. Alors, les élèves sont venus, Kvod Arav, non, c'est pas à vous, c'est pas qu'à vous, nous, on va faire à votre place. Il dit, Rasvé Shalom. Mitzvah, c'est de la Torah. Que vous fassiez à ma place, c'est ma mitzvah. Donc, c'est pas de la poisse. C'est une mitzvah très grande. Des fois, sans kikinant, il faut aller dans tout le quartier et mettre. Mais oui, mais c'est ça la mitzvah que la Torah a voulu, les objets trouvés. Donc, si ça n'a pas de signe, et c'est perdu, tu peux mettre dans la poche. Si c'est un signe, tu es obligé de mettre maintenant un billet. Maintenant, toi, tu as fait la mitzvah à moitié. Tu as vu ça? Ok, je fais la mitzvah. Tu amènes ça chez toi à la maison. Tu vas, ok, je ferai les billets demain. Demain, tu dis, après-demain. Après-demain, tu dis encore après-après-demain. Un mois plus tard, tu mets les petits billets. En attendant, un mois plus tard, le type n'est plus dans la région, il a oublié, qui, quoi, comment. Tu te retrouves maintenant avec une chose qui ne t'appartient pas, que tu aurais pu restituer, en tout cas, tu aurais dû faire la Hishtadlut, les tentatives de restitution que tu n'as pas fait, quelque part, tu es un voleur. Et tu es bien embêté. Comment restituer maintenant? Comment faire tchouva? Celui qui ne rend pas, ne restitue pas la chose perdue, ne fait pas rapidement tout ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, alors il fait partie de ces cinq choses dont la tchouva est difficile parce qu'on ne sait pas à qui rentre. En parenthèse, juste pour finir au niveau de ces lois-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai mon petit billet de 100 euros avec l'élastique, j'attends un mois, deux mois, trois mois, six mois, personne ne vient me le chercher, qu'est-ce que j'en fais? Je prends pour moi. Mais je donne dans un calepin. Moi, Ron Chaya, j'ai trouvé, en date du 16 av 5766, un billet de 100 euros, et je m'engage à le restituer à son propriétaire lorsque viendra Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Alors, 100 euros, c'est clair, on sait que ça vaut 100 euros. Maintenant, tu as découvert un micro dans la rue. Combien ça vaut? Un micro d'occasion. Il faut aller faire une chouma, ça veut dire une jauge, une évaluation. Combien vaut un micro pareil d'occasion? Et tu mets ton calepin. Moi, j'ai découvert un micro, je ne sais pas quelle marque, d'accord, de cette marque-là. En l'année, de cette date, qui a une valeur de autant, et je m'engage à restituer à son propriétaire quand viendra lui un avis. Et tu prends le micro, tu peux l'utiliser, tu peux le vendre. Tu le prends pour toi. La somme, t'es dans ton calepin. Combien ça valait? On va dire 150 euros. Voilà, 150 euros. Pardon? On est gagné en attendant. Tu peux l'utiliser, au lieu de l'avoir bêtement chez toi un micro crèse comme ça pendant 60 ans, 120 ans. Non, parce qu'il faut qu'il ait ramassé après que la personne ait fait FKR. C'est pour ça que si ça n'a pas de signe, la personne a fait Yéhouch, elle a dit ok, bon, terminé, l'argent 100 euros par terre comme ça sans signe, je fais Yéhouch, j'y pense plus, capara. Mais si c'est 100 euros avec un élastique, je me dis, ça dépend où. Si un endroit, t'es un endroit peuplé de voleurs et de gens pas sérieux, alors c'est certain que tu peux le garder. Ça, c'est le type, il a fait Yéhouch. Si c'est un endroit qui est sérieux, dans une yeshiva, dans un quartier religieux, on sait que les gens recherchent un mitzvah maintenant pour rentrer, il y a des cas exceptionnels. Une fois quelqu'un, c'était comment ce cas-là, c'est 10 000 ou 100 000 dollars, une somme faramineuse, que, ah oui, il avait fait le nettoyage pour Pessah. Sa femme fait le nettoyage pour Pessah. Elle a pris tout ce qu'il y avait dans le freezer, hop, elle a mis dans une poubelle, à la poubelle. Le mari rentre le soir, et il devient tout bleu, vert, rouge, d'accord. Il avait mis dans le freezer, dans une enveloppe comme ça, fermée dans un plastique, 100 000 dollars pour acheter la nouvelle maison. Cachette, le freezer, d'accord, comment on appelle ça en français, le congélateur. Bon, il descend vite à la poubelle a déjà été ramassée par la voirie. Ils ont appelé la radio religieuse, s'il y avait des volontaires qui étaient venus, ils sont allés tous dans la voirie, de monticule de la voirie, ils sont recherchés, ils ont retrouvé l'argent. Donc ça, c'est beaucoup de cas de mitzvot extraordinaires. Où les gens, moi, une fois, j'avais perdu, j'avais vu que c'était une sougoula, c'était une combine bien de porter des rubis ou des émeraudes, d'accord, c'est marqué dans le Rabbeinu Bachaye, c'est bien pour une femme qui doit accoucher, des choses comme ça, et c'est bien de porter des petites pierres. Alors mon père, un peu dans les pierres comme ça, je lui demandais qu'il m'envoie. Bon, c'était rien, c'était des petites pierres, des petits rubis minuscules qui ne valent même pas un centime pièce. Et puis je ne me suis même pas rendu compte que je les ai perdues. Puis un jour, je vois au musée, je vois, été découvert, des sacs de pierres précieuses. Je verrai chez moi, effectivement, j'ai perdu ça, j'ai rappelé, il m'a rendu. C'était pas des gros diamants à plusieurs carats, des petits trucs de rien du tout. Mais néanmoins, voilà, les gens, c'est une mitzvah. Donc maintenant, donc, obligation de rente, et si on ne le fait pas, la tchouva est très difficile. Quatrième chose, celui qui mange littéralement un bœuf, il égorge un bœuf qui appartient à des pauvres, des orphelins ou des veuves. Parce que ces personnes-là, dit Maïmonide, sont des miskalim, des gens de conditions misérables, qui errent d'un endroit à l'autre, des SDF, ils vont d'une ville à une autre, etc. Maintenant, toi, tu leur as volé leur bien, pas forcément un bœuf, tu leur as volé de l'argent, quoi que ce soit, et maintenant, tu fais tchouva, va les retrouver. Si c'est monsieur un tel qui habite à Neuilly, un village un tel, ça va aller, il a déménagé, on sait où il est parti, où il est passé, on peut faire des recherches, mais un pauvre qui erre, un mendiant qui erre d'endroit à un endroit à l'autre, où tu peux le retrouver, impossible. Cinquième chose, celui qui reçoit en tant que juge, il est juge, un pot de vin. Il fait tchouva. Maintenant, il ne sait pas combien il doit rendre. Le pot de vin fait que tu as ta tendance à vouloir juger malgré toi en faveur du type qui t'a fait le pot de vin. Mais tu ne sais pas à quel point était la tendance. Tu ne sais pas comment aurait dû être le jugement normalement. Donc tu ne sais pas exactement combien tu l'as volé. De nouveau, la tchouva est difficile. Et pot de vin, ce n'est pas forcément donner à faire un chèque de 10 000 dollars. Je vais raconter une fois l'histoire de Rabben Sion. Il était juge dans un tribunal rabbinique. Et au milieu du jugement, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Il se lève. Et il rentre dans un couloir qui amène aux toilettes. Et quand il est dans le couloir, tout à coup, quelqu'un allume la lumière. Une des deux parties. Il s'arrête comme ça. Il dit, j'ai rien vu. Éteint immédiatement. J'ai pas vu qui c'est. De peur que... Il y a une sympathie plus grande pour celui qui a allumé la lumière. S'est levé pour allumer la lumière au rab, qui allait maintenant aux toilettes. Chorad, pot de vin. C'est pas beaucoup un pot de vin. Mais déjà, ton corps, il est déjà plus. C'est certain. C'est un truc magique. C'est marqué que le pot de vin, la personne ne peut plus juger, même s'il ne sait pas. Il y a des cas d'histoire de grands rabbinim qui ont retrouvé une pièce dans leur poche et ils ont senti qu'ils allaient d'un côté comme ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Une sympathie pour une des parties. Après, ils se sont rendus compte qu'il y avait on leur avait mis, je crois, dans une petite boîte à tabac, il y avait une pièce dedans. Et quand il a enlevé la pièce, il l'a jetée, tout à coup, hop, tout a pris tout de suite une autre tournure et il l'a jugé pour l'autre partie. Donc, même malgré nous, c'est une action qui est magique, d'accord? C'est pas au niveau rationnel. C'est complètement irrationnel, ça fonctionne. On passe à un autre groupe. Cinq choses qui a une chazaka, une présomption que la personne ne fera pas de chouva. Pourquoi ? Ce sont des péchés qui, aux yeux des gens, ce sont des choses qui sont tellement légères, ils croient que c'est tellement léger, que c'est même pas un péché, et ils croient qu'ils n'ont pas fait de péché. Donc ils se pensent, ils ont une idée d'eux-mêmes, ils ont une idée d'eux-mêmes qui sont nickel, et ils ne sont pas nickel du tout, ils ont des péchés. Quels sont ces péchés ? Le premier, celui qui mange, Aochel Misouda Shenam Espeket Le Baalea. Celui qui mange d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Ici, ce soir, il y a à manger un repas que vous n'aimez pas. Vous téléphonez ici à la pizzeria d'à côté, elle vous amène une pizza. On va dire deux triangles de pizza, qui suffisent exactement pour vous. Parce que vous avez un appétit quand même, deux triangles, ça va, ça tient tout juste pour remplir un peu l'estomac qui est bien vide. Vous commencez à manger, vous êtes en train de manger, tout à coup rentre votre copain de chambre. Oh, la belle pizza! Ah ouais, ce qu'on a mangé ce soir, c'est vraiment pas bon ça. Ça a l'air bon. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tiens, tu veux une partie? Dans le cœur, tu sais très bien que maintenant ton repas, ça y est, tu vas rester encore à faim, il faudra commander un troisième triangle de pizza. Il dit, non, je ne vais pas déranger. Non, non, mais prends, non, je ne vais pas déranger, mais prends. Celui qui a pris la pizza, avec l'autorisation et la proposition du propriétaire de la pizza, il a fait ce qu'il appelle avak gezel, de la poussière de vol. Parce que le type t'a donné parce qu'il était gêné. tu manges d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Lui le fait parce qu'il est gêné. C'est de bonne convenance de donner. Si tu ne donnes pas, tu dis non, c'est suffisant, c'est que pour moi. Demain, tu annonces à la Shiva d'être un radin. Donc, dans le monde orthodoxe, quand quelqu'un mange et quelqu'un d'autre vient et on lui propose, on ne va pas jamais lui demander, mais si on lui propose déjà, il dit, est-ce que tu es certain que c'est une Seouda, mais avec les balais, il faut que le type t'assure de tous les moyens pour ça, qu'on ne rentre pas dans l'interdit grave de Avagezel, de poussière de vol. Le vol, c'est grave. Même que ça avait consentement de la personne, c'est un consentement qui est non authentique, à cause des convenances, à cause des représailles du quand dira-t-on.
Si c'est juste dans la, de l'huile d'olive, il y a un fond d'huile d'olive qui lui reste dans sa bouteille, on lui demande.
Un fond, c'est certain que ça ne va pas. Les malheureuses clopes.
Mais un fond, ça dure quand même trois repas.
T'aurais pas une clope. Lui, il avait fait quelques, j'en ai une pour maintenant, une pour ce soir avant d'aller dormir. Il y en a deux. Il me dit, t'as pas une clope? Qu'est-ce qu'il fait? C'est soda qu'on m'explique les balais. Maintenant, t'as une bouteille entière d'huile. Ok, donne un peu, faut pas être radin non plus. Pas, c'est ton repas, c'est maintenant ce qu'il te faut pour maintenant.
Ah, c'est pour un repas, s'il y a trois repas, c'est...
Trois repas, je pense que ça va déjà, c'est pas... Comme j'ai dit, les clopes, voilà, il y en a peu, c'était à la fin. C'est ce qui, ça te suffit maintenant. Lui, maintenant, il te prend de ta consommation présente. Ou la consommation qui sera qui doit arriver incessamment sous peu.
Donc c'est une mise à refuser. Si on sait que...
Absolument. On doit refuser. Sinon, on fait du Avagezel. On fait de la poussière de vol. Deux. Celui qui utilise le avot. Avot en français, un gage. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Maintenant, lui, t'as pas tellement confiance, tu lui dis, écoute, donne-moi un gage, une garantie, en cas où tu me rends pas, je garde ça. Il te donne maintenant, je sais pas, la bague de sa grand-mère. Pour une femme, un collier, sa voiture. Et toi, tu dis maintenant, la bague, t'as une soirée, justement, maintenant, mondaine, avec ta femme, et t'as cette belle bague avec ce diamant scintillant. Tu dis à ta femme, écoute, chérie, tiens, prends, voilà. C'est pas un homme, on peut le dire, le type, ça le dérange pas. Ça le dérange pas, le type. Le type, il dit, tant qu'à faire que ça reste dans le coffre-fort du prêteur, que ce soit maintenant sur la main de sa femme, pour qu'ils en profitent. Interdit. Il est interdit d'utiliser le gage. Le type, en gage, on peut prendre. Mais des fois, on doit prendre. Ça ne va pas être idiot non plus. Donc, maintenant, le gage, toi, tu dis, je vais pas voler. Quelque part, je vais prêter 100 000 dollars à la place pour qu'il me rende le diamant. Donc on est quitte. Il n'a toujours pas rendu. Donc quelque part, c'est un peu à moi. Aucun problème que ma femme porte là ce soir. Non, monsieur. Ça appartient à l'autre.
Il ne m'a pas rendu l'argent.
Ouais. Et Shoel Shlomidat, celui qui utilise une chose qui appartient à quelqu'un sans son autorisation, Gazlan, c'est un voleur.
Si quand tu lui donnes le gage, il dit rien. Si tu ne m'en payes 100 000 dollars, le gage, je le garde.
Oui. Mais il n'a pas encore rendu.
Ah, c'est pas encore l'achat.
C'est pas encore la voilà, l'échange est parti, voilà, il peut. L'échange est passé. Troisième. La loi peut-être la plus importante de toutes celles-là, parce qu'elle conseille, elle concerne fortement, et hélas, les Français. Hamistakel Barayot, celui qui regarde les femmes qui lui sont interdites. Mais toutes les femmes, en gros, à part la sienne. Malal Dato, il pense qu'il n'y a rien là-dedans. Car il dit, est-ce que j'ai une relation avec elle? Est-ce que je me suis rapproché d'elle? Et il ne sait pas que regarder avec les yeux est un avon gadol, un péché grand, qui amène les interdictions elles-mêmes après. Comme il écrit dans la Torah, Velot Taturu Ahare Levavrem Re'enechem, vous ne suivrez pas vos corps et vos yeux. Malheureux Français, qui sont ratatinés tous les jours. Il y a ici... Quoi, ça qu'elle a?
Il y a ici les fiancés.
Il peut regarder. Mais il ne peut pas regarder de façon débauchée.
Non, tu ne peux pas. Tu es des femmes, on peut regarder ça.
Alors, tu fais un chitour comme ça? J'ai eu une fois une élève comme ça. Elle m'a appelé la femme, ce qui est normal. Je lui ai dit non, elle n'est pas normale. Elle lui a appelé trois rencontres. Elle a dit, est-ce que tu peux me regarder une fois? Il a dit, ok. Comme ça, il a fait. Marboule.
C'est la
Quoi, l'acha? Quoi, l'acha? Non! Sois bien clair, il y a une nuance entre voir et regarder.
Non, on peut voir toutes les femmes.
Tu me vois là maintenant?
Ah oui, je vais à la banque.
Attends, tu me regardes? Et moi, je suis beau. Quand tu regardes un homme, quand tu regardes une femme, comme tu regardes un homme. Oui. Regarde, voir, tu lui parles comme si tu parlais à un homme. Tu n'es pas en train de profiter de sa beauté, de voir, de juger, de la courbure, le machin, le. D'accord ?
Mais c'est fin, là. Mais là, on ne parle que des regards.
Très fin.
En une demi-seconde.
Très fin, c'est d'acrobatie. Les femmes ne savent pas ce que c'est, les hommes savent ce que c'est. C'est d'acrobatie. Parler à quelqu'un, à une femme, sans la regarder, c'est de l'acrobatie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on fait de la voltige. Ça veut dire, tu regardes pas, tu regardes un peu autour, tu. Pas assez. Quand tu regardes trop, tu tac de tomber. C'est une question de rien du tout. Tu vois et tu fais attention. Tu peux voir sans faire attention, tu vois et tu fais attention. C'est une question de pensée. Alors qu'est-ce que tu fais pour pas. Dès que tu vois, tu es en situation de danger, de faire attention à sa beauté. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vois par intermittence. Tu regardes là, tu lui parles comme ça, tu. Voilà, tu peux quelques secondes voir sans être. Mais si tu regardes pendant 10 minutes au bon moment, tu risques de. Sans parler du zip-zip. D'accord. Zip-zip. Hein ? Fais l'exercice. Fais l'aller, je suis avec des hommes.
Raph, mais là, la fin, vous avez lu, c'est uniquement celui qui voit en profitant.
Oui.
Mais on peut regarder.
Istakel, Mario.
On peut voir quelle femme, sinon.
Il y a, regarde, il y a Re'iya et il y a Istaklo. Traduction en français, voir et regarder. Voir, je vois. Mais je regarde pas, regarde, c'est regarder avec profit, avec jouissance, avec attention à la beauté.
Même sa fiancée, on peut la regarder comme ça.
Alors, sa fiancée, on peut la regarder comme ça, sans que ce soit pas de façon znout, znout, débauchée. Tu la déshabilles du regard. Ça, c'est interdit.
Ah, donc il y a une alternative. Il y a une.
Ouais. Ouais. Sa fiancée, ouais, on peut. Comme je dis. Quatrièmement. Aimetrabel Beklon Javero, celui qui s'honore par la honte de son prochain. Comment il fait cela? Il valorise ses actions, ou lui-même, en comparaison avec les actions de son prochain. Je vois que les gens jouent des fois ici aux échecs. Alors il dit, voilà, 10 victoires, t'en combien? 5? Mitraïk Bel, il s'honore de la défaite de l'autre. Ou même que l'autre ne soit pas là. Ça va lui faire honte. Mais tu t'honores par la honte de lui. C'est très dur. Quelqu'un, maintenant, il a une boîte. C'est pas ton de la boîte. Et il va, et il raconte, ouais, eux, ils sont comme ça, alors que les autres en face, ils sont moins. Je suis. Pourquoi? Parce que je suis plus que lui. Or, la Torah dit, tu es pas parce que tu es plus que l'autre. Tu es parce que tu es. Tu es ce que tu es. C'est pas en comparaison à l'autre que tu es. L'autre, il est ce qu'il est. Toi, ce que tu es. Vous n'êtes pas du tout en concurrence. Ça n'existe pas. Celui qui s'honore par la honte, par la défaite de l'autre, il croit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, est-ce que c'est vérité? C'est vrai que moi, je suis mieux que lui, c'est un nul et je suis un bon.
La pub s'interdit.
La pub s'interdit. La pub qui descend l'autre. Pepsi qui casse Coca, Coca qui casse Pepsi. Ouais. Avec les Grimm.
Je pense que c'est pas un problème. Je pense que c'est pas un problème.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça concerne que les juifs. Commerce avec les non-juifs, tu peux monter ta cam, qui est la meilleure, et au dépend de l'autre.
Ah, mais même une marchandise.
Aussi.
Moi, je suis meilleur par rapport à quelqu'un, je comprends. Mais dire ma marchandise est meilleure par rapport à la sienne, c'est aussi interdit.
Tu dis que ta marchandise, elle est bonne. Ça veut dire que l'autre, elle est mauvaise.
Mais là, je parle pas du propriétaire de marchandise, je parle de sa marchandise.
J'ai pas compris. Sa marchandise, à qui? À quoi?
Je suis meilleur que lui, ça c'est interdit.
Ouais. Ma marchandise est meilleure que sa marchandise. Voilà, aussi, c'est interdit. Ma marchandise est bonne. Sous-entendu, quand ta marchandise est bonne, toi, tu es bon. Dans le domaine de la vente de ce produit, tu es meilleur que lui. Tu as des meilleurs rapports, tu as des meilleurs rapports que tes
parents.
Il doit pas dire mieux. Il dit, voilà mon diamant. C'est le prix que je propose. Lui qui va voir lui-même. Il dit, mais l'autre, il fait moins cher. Je peux dire, ouais, mais l'autre, t'es un nul. Regarde, il y a des machins et tout ça. Mais non, vérifie.
C'est dur, ça.
Très dur.
Sans parler en prenant une caisse, c'était bien mal. Sans diamant, c'est pas évident. Hein.
Torah, c'est la Torah, Xerat Melech, décret du roi. 5 et dernier de ce groupe-là. Aussi, une chose qui est très facile à transgresser, on ne se rend pas compte que c'est un péché, Achoshet Bakshérim, celui qui suspecte quelqu'un qui est kasher, quelqu'un qui est bien. Ça arrive facilement 10 fois par journée. On va dire, quelqu'un a pris mon livre, il n'est pas à sa place. Ah, c'est certainement Moshe. Et il m'a fait ça, il m'a fait ça hier, c'est 3 fois que je lui dis, et chaque fois c'est, ça se trouve chez lui. Et pour finir, je vois que non, c'est pas chez Moshe, c'est chez Shimon. J'étais Achoshet Bakshérim, dans mon cœur, j'ai suspecté, j'ai accusé quelqu'un, à tort, dans mon cœur, personne n'a su, j'ai rien dit, rien que dans ma tête. Pardon ? Si tu dis, c'est moi aussi Shemra. Si tu penses. Ce que dit Maïmonide. Omer Bilbo, il dit dans son cœur que ce n'est pas un péché, car il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il y a plus qu'un doute, une suspicion ? Que et peut-être il l'a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Et il ne sait pas que c'est un péché, qu'il considère un homme cacher dans son esprit, comme ayant fait un péché, une chose interdite. C'est rien, même pas certain, j'ai juste un soupçon. Je pense que c'est lui. Et très souvent, tu te trompes, tu crois qu'une chose qui était faite en mal, elle n'a pas été faite en mal, par exemple. Moi, je rentre maintenant dans la salle, je vois ici, c'est l'Afsaka. Entre 1 heure et 2 heures, et je vois que l'air conditionné qui fonctionne pour rien, pour les mouches. C'est pas possible. Je vais dire au responsable qu'il fallait éteindre entre 1 heure et 2 heures, faut pas que ça s'allume. Je vais lui dire non, mais ce soir, on a à 2 heures, on a un groupe de 50 personnes qui viennent, et il fait une chaleur torride, il faut que la salle soit bien froide, sinon en 2 minutes, l'air conditionné ne sera pas suffisamment puissant, et il fera très chaud. Donc, moi, je sais qui devait faire cela, et je l'ai accusé dans ma tête, maintenant il s'avère que c'était fait dans une intention qui était... positif, je reconnais que ça a bien été fait. Le Torah, même Moshe Rabbeinu est tombé dans le panneau. Il a accusé, à l'époque des Milouim, Aaron et ses deux fils, au niveau de sacrifice, il a fait une erreur. Et parce qu'il s'est fâché, dit Chazal, qu'il a fait cette erreur-là. Donc c'est très dur de faire tchouva de cela. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, bien sûr. Le maître est là et dire, je m'excuse, je t'ai suspecté pour rien. C'est pas toi. Dernier groupe, 5 choses qui sont dangereuses dans la mesure où la personne facilement elle s'accoutume à la faire, et après c'est très très difficile de s'en débarrasser. Ce sont des mauvaises habitudes que si on ne corrige pas dès que ça commence, alors ça devient du goudron. Tu t'attaches, tu es collé, c'est de la glu. Qu'est-ce que c'est ? Le Rambam dit sont déot, raot, admerot. Ce sont des midotes, des qualités d'âme, des traits de caractère très très mauvais. Et les voici. Premier, rechilut velashonara. Rechilut, colporté. Il a fait comme ça. Même quand la chose colporté, c'est rechilut, c'est même quand la chose en soi n'est pas négative, mais elle peut provoquer un dommage chez la personne sur qui on parle. Du genre, je demande où est Moshe. Il dit, Moshe, mais il est parti, il est rentré en France. Quoi ? Il est parti sans me dire au revoir ? Ça ne se fait pas. Dire que Moshe est parti en France, il y a rien de mal là-dedans. Les conséquences dans le cas de figure peuvent être mauvaises. Ça, c'est la rechilut. La shonara, c'est dire une chose qui est vraie, mais qui est mauvaise. Sur une personne. La shonara. Balchema, le coléreux. Terrible. Un petit guili-guili, il saute comme un volcan. Bal Marshavara, celui qui a des mauvaises pensées au niveau sexuel, au niveau de l'orgueil, au niveau de la haine. C'est intérieur, mais c'est dur à corriger. Et dernièrement, va Mitraber Laracha, celui qui s'associe, pas d'une association, il est proche, il fréquente les mécréants, les Rechaïm. Comme explique dans Rambam dans l'Hilchot Deot, l'homme est social. Et il est influencé par le groupe de personnes dans lequel il se meut. Et si eux sont mauvais, il deviendra mauvais. Eux sont bons, il sera bon. Délicatement, même dans le kirouf, c'est dangereux le kirouf. Un grand rabbin rabbin, il a dit, le kirouf c'est quoi ? C'est comme un balai. Tu vas, tu nettoies. Mais tu as vu un balai, c'est propre un balai. C'est sale. Donc, délicatement, il faut être dans ta base, ici, dans l'étude de Torah. Tu sors de temps en temps, tu vas, mais tu es de nouveau dans la base pour te remonter à ton niveau. Fréquente des gens idiots, tu deviens idiot à la fin. Ces 24 choses-là qui rendent la tchouva difficile, mais pas impossible. On s'arrête ici. Baruch Adonai.